Le Mac de l'Imo, en partenariat avec Promis et bien ici.
Loïs Moulas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de l'OID, l'Observatoire de l'Immobilier Durable. C'est une ONG à portée nationale et européenne. Pouvez-vous déjà nous présenter cette ONG, ce qu'elle fait?
Voilà, l'OID est une association qui a été créée il y a 10 ans. Il a pour objet principal d'accélérer la transition écologique de l'industrie immobilière. Alors, quand on dit industrie immobilière, c'est aussi bien le secteur de la construction, de la rénovation, mais aussi tout le secteur économique de la gestion immobilière, donc des bâtiments existants qui constituent l'essentiel du travail en matière de transition écologique. C'est une association qui regroupe aujourd'hui une centaine d'acteurs et de laquelle ont émergé un certain nombre de programmes pour la transition écologique, notamment le programme BIG, Biodiversity Impulsion Group, qui fêtait ses 1 an il y a une semaine.
Et donc, alors là, on va parler de la COP 15. Hein. Je rappelle que la COP 15 aura lieu du 7 décembre au 19 décembre. Rappelez-nous l'objectif de cette COP 15 et du coup, ce que vous préconisez pour cette COP 15.
Moi, par rapport à cette COP 15, comme pour toutes ces COP, j'ai pas forcément d'attente personnelle. En tout cas, j'aimerais ne pas être déçu par ce qu'il en ressortira, sachant que l'objectif, effectivement, c'est de faire en sorte que les États puissent fixer des objectifs de limitation de l'impact des activités anthropiques sur la biodiversité dans un horizon plutôt moyen terme, en 2030, et plus long terme, en 2050. Voilà. Cette COP 15, la biodiversité, elle est censée être ce que la COP 21 climat a été pour le réchauffement climatique. Donc, on espère ne pas être déçu sur l'aboutissement d'un accord entre les pays, premièrement. Et après, j'aurais envie de dire que ma deuxième attente par rapport à la COP 15, c'est qu'elle soit suffisamment médiatisée pour que le grand public et les pouvoirs politiques prennent la juste mesure de l'importance de la biodiversité dans la transition écologique. Si vous regardez depuis 30 ans, je dirais qu'on parle, je crois qu'une étude montrait qu'on parle 8 fois plus de changement climatique que de l'effondrement de la biodiversité. Or, l'effondrement de la biodiversité, il est bien plus avancé, premièrement, et il est au moins aussi impactant pour les activités humaines à moyen long terme que le réchauffement climatique. Donc on ferait bien de s'en préoccuper bien plus en avant. Ça, c'est, je dirais, ma deuxième attente, étant indirect de l'impact que ça pourrait avoir. Et enfin, ces événements internationaux sont souvent l'occasion pour un certain nombre d'ONG, cousines, mères, un petit peu comme l'OID, de lancer des initiatives pour embarquer les acteurs économiques. Parce que l'enjeu de la transition écologique, il se situe pas seulement au niveau réglementaire, mais il se situe aussi au niveau volontaire. Et c'est ces initiatives portées par les acteurs au niveau international qui, d'ailleurs, définissent à moyen long terme les réglementations à venir. Donc, j'espère qu'émergeront un certain nombre d'initiatives.
Vous parliez des gouvernements, des États. Hein, voilà, vous aimeriez qu'ils soient un peu plus, qu'ils se sentent plus concernés par cette biodiversité. Qu'est-ce que nous pouvons faire nous à notre échelle? Est-ce qu'il y a des gestes à faire pour essayer de préserver la biodiversité?
Vous savez, au même titre que vous avez une énergie grise dans tout objet que vous consommez ou vous utilisez, qui elle-même repose sur l'utilisation d'énergies fossiles qui émettent des gaz à effet de serre. Il y a une biodiversité grise dans toute notre consommation individuelle. Donc aujourd'hui, moi-même n'étant pas écologue, je pourrais pas vous dire précisément ce que l'on peut faire à titre individuel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'industrie immobilière, l'artificialisation des sols et la destruction des connectivités des paysages est responsable de l'effondrement de la biodiversité en France. Et c'est même le deuxième facteur d'effondrement de la biodiversité en France. Donc par rapport à ça, je pense qu'un certain nombre de textes réglementaires comme la ZAN, s'ils sont correctement mis en place, iront dans le bon sens. Et premièrement, deuxièmement, ce qu'on peut faire lorsqu'on est un acteur de l'industrie immobilière, si on agit dans la construction, c'est de se poser la question, de la manière de minimiser l'impact qu'on va avoir, parce qu'on aura nécessairement un impact. Et si on a des immeubles en exploitation, c'est de regarder de quelle manière ceux-ci peuvent être un support pour la biodiversité, et même en niveau urbain, même en milieu urbain. Mmh. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'adresse un message à tous les gestionnaires de patrimoine haussmannien, par exemple, patrimoine parisien, dont j'entends souvent un retour, c'est de dire « non, non, mais on est en milieu tellement minéral que il y a vraiment rien à faire ». En fait, c'est pas vrai. Parce que pour ce qui se passe des choses au niveau politique, il faut que le grand public s'y intéresse. Et quand vous avez grandi en milieu urbain et complètement déconnecté de la nature, eh bien, vous pouvez avoir tendance, inconsciemment, à oublier qu'il y a tout ce monde naturel dont notre vie en milieu urbain dépend. Donc, ne serait-ce que mettre du vert un petit peu partout, même si ça n'a pas un impact très fort sur la biodiversité, ça reconnecte les gens à la nature, d'une part, sans parler de tous les co-bénéfices sur le bien-être. Et ça, ça a été prouvé scientifiquement. Donc, en fait, lorsqu'on a un gestionnaire de patrimoine immobilier, quelle que soit la situation de ses bâtiments, ça peut paraître futile, mais mettre du vert dès qu'on peut, c'est utile à moyen et long terme.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Promis, est bien ici.